Le pastiche, c'est un exercice d'admiration.
Patrick Rambaud.
C'est Proust imitant Flaubert pour montrer à quel point son style est merveilleux. Alors, il n'y a pas un point virgule mal placé, c'est impeccable. Et ce qui est amusant, c'est qu'au bout d'un moment, les phrases de Proust s'allongent et ça finit par devenir du Proust. Donc, on s'aperçoit par ce pastiche que Proust, finalement, c'est Flaubert plus Delasme.
Ça peut pas faire de mal.
Donc, ça apprend beaucoup de choses sur la personne qui est pastichée et sur celle qui pastiche. Moi, je me suis mis à faire des parodies de Marguerite Duras sous le nom de Marguerite Duras. J'en ai fait deux à 10 ans d'intervalle. Le premier s'appelait Virginie Q. Et 10 ans plus tard, j'en ai refait un qui s'appelait Mururoa, mon amour.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal. Dehors, il fait froid. Quelques degrés au-dessous de zéro. Froid. Très froid. Anne s'est levée, inquiète. Dans sa cuisine, elle a regardé le ciel par la fenêtre. Elle l'a trouvé blanc, un peu gris aussi. Sa fille Justine, Anne déteste ce prénom, c'est Jacques qui le lui avait imposé, mais elle a toujours appelé sa fille Tine, même avant le divorce d'avec Jacques, a téléphoné de New York pendant la nuit à cause du décalage horaire. Anne écoute le message de Justine, Tine. Tine est en colère à cause de la bourse. Elle est broker. Anne ne sait pas ce que ça signifie. Vraiment. Broker, du verbe break, briser, ou de l'expression de brique et de broc. Elle l'ignore, Anne. Le message se termine. Elle boit une gorgée de thé. De l'autre côté de la rue, il est là, dans le froid. Le SDF. Anne souffre. Pour lui, si je lui faisais une soupe de poireaux, se dit-elle. Elle le fait vraiment. Épluche les poireaux, coupe les patates en petits morceaux. La soupe est prête. Dans quoi la porter au SDF? Elle lui a demandé son prénom, une fois. Il n'a rien dit. Il dormait. Le courage qu'il faut, pensa alors Anne, pour vivre quand on est là, quand on en est là. Les pompiers, ils emportent l'homme, vivant ou mort. Elle ne sait pas, elle ne sait plus. Quoi faire de sa soupe? C'était un pastiche signé Patrick Besson. Toute ressemblance avec une personne connue est totalement assumée. Cette personne, c'est une amie et c'est le seul écrivain que je connaisse qui ait assez d'humour pour accepter d'entendre ce soir devant vous un pastiche de son œuvre. Bonsoir, Anna Gavalda. Merci d'être là ce soir exceptionnellement en public devant vous, mesdames et messieurs, au Théâtre de l'Odéon et consacré, vous l'aurez compris, au pastiche littéraire. Vous n'êtes pas la seule à me rejoindre sur scène. D'autres invités liront avec vous des pastiches de leur choix. Avant que nous commencions à lire ensemble d'autres pastiches, vous allez nous expliquer ce qu'est un pastiche. En voici une définition donnée par le merveilleux Claude Gagnaire.
N'ayons pas peur des mots. Ce que nous appelons style en littérature n'est le plus souvent que l'ensemble des défauts qui donnent à une écriture sa personnalité et qui permettent d'en reconnaître l'auteur. Les grands auteurs et les œuvres importantes ont en commun d'avoir été pastichés, d'avoir été souvent assassinés par la critique à leur début. Ont-ils du succès, qu'on les moque, qu'on les parodie, et plus tard, lorsqu'ils s'imposent enfin, on les pastiche. Je vois du petit lait. Parodie, pastiche, voilà deux mots différents que l'usage a transformés en synonymes. Les dictionnaires entretiennent volontiers une certaine confusion, et pourtant, la parodie se veut méchante. Comme elle ressemble à la caricature, elle se doit de forcer le trait, vous avez entendu, et d'abolir les nuances. C'est en quelque sorte un miroir déformant qui ne veut connaître des choses que leur apparence. Le pastiche, en revanche, exige une parfaite connaissance de l'œuvre, une approche par l'intérieur. Le pasticheur idéal voudrait être celui qui ajoute une œuvre à celle de sa victime. Sa victoire serait que son pastiche fût pris au sérieux. Mais, dans ce cas, semblable en cela à l'auteur d'un crime parfait, il ne connaîtrait jamais la consécration. Il lui faut donc laisser quelques traces afin d'être découvert. Le pastiche, écrivait Oscar Wilde, est une muse ironique.
Tu me parais bien pâle et triste à regarder. Qu'as-tu donc, Hippolyte ?
Je suis bien emmerdé. Oh, désespoir, oh crime, oh détestable race !
Par Jupiter, je crois qu'il me traite de pétasse.
Hippolyte !
N'as-tu donc rien compris de mes tendres desseins ? T'as titanté et mes cuisses, t'as titanté et mes seins ?
Dieu, qu'est-ce que j'entends ? Madame, oubliez-vous que Thésée est mon père et qu'il est votre époux ?
Comme ça, tout se passera honnêtement en famille.
Après la théorie, la pratique. Voici Racine telle que vous ne l'avez jamais entendue. Pour interpréter le rôle mythique de Phèdre, j'ai l'honneur d'accueillir sur scène l'une des plus belles voix d'aujourd'hui, Nathalie Dessay.
Bonsoir.
En 1909, Georges Fourès devient célèbre en publiant La Négresse Blonde, un recueil de, je cite, pseudo-sonnets plus ou moins truculents et allégoriques et autres petites élégies falottes qui pastichent les grands classiques. Et voici donc la version du destin de Phèdre. Dans un fauteuil en bois de cèdre, à moins qu'il ne soit d'acajou, en chemise, Madame Phèdre fait des mines de sapajou. Tandis que sa nourrice nonne, qui jadis eut de si bon lait, se compose un maintien de nonne et marmotte son chapelet, elle fait venir Hippolyte, fils de l'Amazone et de son époux, un jeune homme d'élite, et lui dit
« Mon très cher garçon, dès longtemps, d'humeur vagabonde, monsieur votre père est parti. On dit qu'il est dans l'autre monde, il faut en prendre son parti. » Sans doute un marron sur la trogne lui fit passer le goût du pain. Requiescat. Il fut ivrogne, coureur et poseur de lapins. Oublier cet époux volage ne sera pas un gros péché. Donnez-moi votre pucelage et vous n'en serez pas fâché.
À cette tirade insolite, ouvrant de gros yeux étonnés, comme un bon jeune homme, Hippolyte répondit les doigts dans le nez. Or ça, belle maman, j'espère que vous blaguez en ce moment. Moi, je veux honorer mon père afin de vivre longuement. À la cour brillante et sonore, il est vrai que j'ai peu vécu, mais je doute qu'un fils honore son père en le faisant cocu. Vos discours, femelles trop mûres, dégoûteraient la putiphare. Prenez un gramme de bromure avec un peu de nénuphar. Sur quoi, faisant la révérence, les bras en anse de panier, il laisse la dame plus rance que du beurre de l'an dernier.
Et va donc, puceau, phénomène, va donc, châtré, salaud, va donc, lopaille à terre amène, et va donc t'amuser, charlot.
Comme elle bave de la sorte, de fureur et de rude, voilà qu'un esclave frappe à sa porte. Madame, votre époux est là.
Thésée, c'est Thésée, il arrive. C'est lui-même, il monte à grands pas.
Venait-il de Quimper, de Brive, d'Honolulu, je ne sais pas. Mais il entre, embrasse sa femme, la rembrasse en mari galant. Aussitôt, la carogne infâme pleurniche, puis d'un ton dolent.
Monsieur, votre fils Hippolyte, avec tous ses grands airs bigots et ses mines de carmélite, est bien le roi des saligots. Plus de 20 fois sous la chemise, le salaud m'a pincé le cul. Et passant, la blague permise, volontiers vous y fait cocu.
Après Racine, un pastiche d'un autre grand dramaturge, William Shakespeare. Au début du XXe siècle, Paul Rebout et Charles Muller ont contribué au succès de la toute jeune maison Grasset en publiant un célèbre recueil de pastiches à la manière d'eux. Voici donc une farce que leur inspire Shakespeare. La pièce s'intitule « Le duc Vespasio ». Et pour interpréter le rôle-titre, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène un grand comédien, un grand metteur en scène, qui a été mon maître et qui l'est toujours. Bonsoir, Daniel Mesguich.
To be or not to be. To be or not to be.
That is the question.
J'ai le plaisir de vous donner la réplique donc dans le rôle de l'écuyer. Acte premier, un camp, deux ou trois chevaliers, fanfare.
Oh, déshonneur! Ma fille Rémella, ma fille bien-aimée, s'est enfuie avec son cousin, le chevalier Tromboneau. Paraissez tous devant la majesté de sa majesté, ma douleur. Du sang! Du sang! Quel est celui d'entre vous qui veut partager ma couronne après m'avoir ramené les fugitifs? Lève-toi, noire vengeance! Inspire-nous!
Je serai celui-là.
Es-tu sûr de ta force? N'as-tu pas une peau de veau sur des membres de lâche?
J'ai une peau de lion sur des membres de demi-dieu.
Qui es-tu donc?
L'amant de votre fille. Celui qu'elle a trahi avec Tromboneau.
Toi, son amant, excrément de crapaud, œuf de coucou rouge, chien rasé, hors de ma vue.
Acte cinquième, au bord de la mer, orage, le duc, l'écuyer, puis entre Rémella et Tromboneau.
Par ma gorge, damnation, voilà la récompense. Tourbillon de l'ouragan, vague aux féroces gueules vertes, éclair terrible, déchirez cette terre où j'ai vécu jusqu'ici. Fouettez-le, châtiez-le d'avoir permis de telles choses. Et toi, terre damnée, ouvre-toi pour engloutir le plus infortuné de tes enfants.
Ciel, le duc, mon père.
Que mes yeux ne sont-ils devenus chassieux avant de me montrer un tel spectacle?
Tromboneau, tu vas payer ta perfidie. Il le tue.
Horreur, triple horreur, tiens, affreux!
Elle le frappe. L'écuyer expirant. Hélas, je vais coucher avec ma mère la terre. Rémella fredonnant.
Le plus petit œil de la lune a fait cuire la sorcière. C'est pourquoi le jeune Loriot va retourner la marmite.
Elle sort en chantant.
Ma fille a perdu l'esprit. Enfer.
Il se tue.
Ça peut pas faire de mal.
L'autre jour, il y a une femme qui me dit « Oh, j'adore votre émission. Mais alors, ce que j'aime le plus, c'est le bruit des pages. »
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Moi, je connais un ami, il s'appelle Alceste. C'est son nom, Alceste. Nous, on l'appelle Zantop, c'est notre ami Zantop. Bonjour, la mise à top. Quand il est à Saint-Top, il vit comme un ascète. Il sort jamais là-bas, mais quand il est à Saint, il vit comme à Saint-Top. Toute la nuit, il sort, il fait le tour des boîtes où l'on boite et l'on danse. Il y en a plusieurs à Saint. Il cherche Célimène, sa doudou fiancée. A vu Célimène, pas là. À la fin, il a tout vu, il lui dit ce qu'il pense. N'est pas content du C, il dit fuyons ces boîtes de lait condensé. Mais notre Célimène dit pas toujours amen non. Oh non, au contraire bien souvent elle dit amen non. C'est vrai ça, moi j'aime conversation de garçons plus amen oui. Amen signifie doux, puis je suis pas sans dillon, je rentre pas à minuit. Si tu crois qu'en amour y'a pas besoin de haute œuvre, va t'en chercher ailleurs qui peut faire ton bonheur. Pour gagner une guerre, il faut faire des manœuvres. Mets du miel sur ton piège pour attraper mon cœur. Eh bien voilà, et tout ça c'est de la diatribe. Elle est comme ça, Célimène. Elle aime avoir beaucoup d'amoureux qui font nanana des manières. Oh oui, mais tout ça c'est bien triste. Et ça donne envie de partir et chercher sur la terre un endroit écarté où d'être homme d'honneur, on est dans la liberté. Comme il a dit un copain à moi, seulement voilà, il n'y en a pas. Tout est loué depuis Pâques, alors qu'est-ce que tu veux faire?
J'ai le plaisir d'accueillir sur scène un jeune philosophe que je trouve très beau, Raphaël Antoven. Après le théâtre, les grands romans du 19e siècle n'échappent pas au style cocasse de Rebou et Müller. Il parodie les aventures de Swann. Ce texte s'intitule « Un mot à la hâte ».
Je me souviens que Swann devait dîner ce soir-là chez les Verdurin, quand, vers 6h, un billet d'Odette de Crécy l'informa qu'elle souhaitait de passer la soirée avec lui pour qu'ils entendissent ensemble le ténor varsovien Skoczewski dans son interprétation du rôle de Tristan. Car, assurait-on, nul autant que ce Polonais n'en avait mieux rendu, selon la tradition wagnérienne, les nuances passionnées. Malgré l'agrément qu'il pouvait espérer d'un tête-à-tête souhaité avec Odette, dont il posait l'excellence a priori, et tenait la suprahumanité pour séraphique, l'idée de bouleverser ses prévisions n'était pas agréable à Swann. Bien que, d'une part, il n'attendît pas grande délectation de cette soirée passée chez les Verdurin, où chacun lui était connu, et où les noms et les visages, en s'ordonnant et en se composant les uns relativement aux autres, en nouant des rapports de plus en plus nombreux, imite ses œuvres d'art où il n'y a pas une touche qui soit isolée. Et bien que d'autre part, il n'aurait pas goûté beaucoup de nouveautés à s'entretenir avec le chevalier Soporifico, le docteur Gillette, Madame de Canuleuse, le duc d'Endormante, Madame de Patati. En outre, il ne considérait pas comme un spectacle exceptionnel celui de la glace fournie par Poiret et Blanche et des petits fours rituels de Rebattet. Il y songeait en se rendant chez les Verdurin, afin de se faire excuser sur quelques devoirs de famille. Quand il s'aperçut, devant une glace posée à gauche de la devanture d'une boulangerie, que dans la rainure qui séparait deux de ses dents, s'était nichée lors du repas une minuscule parcelle de cerfeuil. Ce brin de verdure ressuscita dans sa mémoire les vastes horizons des pacages peints par Vermeer de Delft, non moins que les solennelles frondaisons d'un Hubert Robert, sans omettre les ramures exquises où Watteau répandit les roses d'un couchant cythéréen. Ces images incomplètes et changeantes se reproduisaient en lui par simple division, comme certains organismes inférieurs. Elles rayonnaient ainsi qu'une rosace dont le motif central est environné de logettes où s'inscrivent des banderoles courtes. De cette sensation de verdure fragmentaire essaimait des évocations de sous-bois et de halliers, car les forêts, tout comme la nature entière, doivent être transplantées en nous avant de nous communiquer les sensations de jardin intérieur auxquelles est due notre intimité psychique. Ces souvenirs étaient si intenses, si réellement ressuscités, que Swann se sentit pénétré par l'importune fraîcheur sylvestre et dut relever le col de son pardessus. Pour monter, il prit l'ascenseur. Où, dans la cabine obscure, les boutons offraient la perpétuelle énigme de l'entresol aux Oedipe de la mondanité à qui le concierge avait dit que c'était au deuxième. Car il est malaisé pour un esprit méditatif de discerner en quelle conjoncture l'entresol est valable dans la dénomination des étages, d'autant que la règle semble varier avec les immeubles et selon les caprices des architectes. Le valet de pied des Verdurin reçut Swann avec le sourire, une politesse de commande dont il semblait se servir comme d'une arme pour asséner l'information que « Madame et Monsieur étaient sortis et ne rentreraient que tout à la fin de l'après-midi ». Alors, Swann décida d'écrire un très court billet d'excuse pour Madame Verdurin, afin de se faire absoudre plus sûrement d'une défection qu'il se reprochait à lui-même. Il demanda qu'on lui donnât une plume, de l'encre, du papier. Il fut introduit dans un petit salon assez retiré, où il se mit aussitôt à faire courir sur les feuilles des lignes penchées selon la facilité grâce à laquelle il pouvait écrire comme d'autres respirent d'un mouvement réflexe et continu. comme un caoutchouc tendu qu'on lâche, ou comme l'air entre dans une machine pneumatique entrouverte, l'inspiration le cinglait, pénétrait en lui, galopait dans le champ du présent et l'enrichissait de possibilités immédiates au point que par le chimisme même de sa substance cérébrale, il fixait les reflets des moindres bigarrures d'idées qui jouaient dans ses circonvolutions cervicales car sa pensée était comme amorcée par un siphon et l'on pouvait se demander quelle intervention entarrirait le flux. Chaque mot éveillait en lui des ombres et des lumières, des nuages fugaces, des silhouettes de personnages un jour entrevus, tout un passé qui, perdu pour d'autres, montait des profondeurs de sa mémoire, lentement pénétré de grâce vivante. Vers 9 heures du soir, Madame Verdurin s'enquit de ce que faisait Swann. Comme le domestique avait répondu « Ce monsieur écrit toujours », elle avait ordonné qu'on lui portât discrètement une nouvelle provision de papier et un plateau chargé d'un repas froid. Le lendemain, à midi, Swann n'avait pas encore achevé sa lettre.
Virginia Woolf.
Words, English words, in our houses, in the streets, in the fields, for so many centuries, words belong to each other. Although, of course, only a great poet knows that the word incarnadine belongs to multitudinous seas. Old words in new orders.
Recette du clafoutis grand-mère, écrit à la manière de Virginia Woolf. Et pour goûter ce savoureux pastiche, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir sur scène une magnifique comédienne avec qui nous avons partagé des lectures sur un thème qu'elle incarne si bien, la féminité. Bonsoir Françoise Fanon.
Recette du clafoutis grand-mère. 500 g de cerises, 3 œufs, 150 g de farine, 150 g de sucre en poudre, 10 g de levure déliée dans l'eau chaude, 100 g de beurre, une tasse de lait. Elle déposa les cerises dans une terrine beurrée et regarda par la fenêtre. Les enfants couraient sur la pelouse. Nicolas, qui avait déjà atteint les massifs de trithomas rouges flamboyants, se retournant pour attendre les autres. Elle revint aux cerises. Pois rouges sur fond blanc, si gais, si plaisants, avec leur noyau dur invisible, qu'elle n'enlèverait pas. Elle eut une pensée émue pour Mrs. Sorley, cette pauvre femme sans mari, accablée de tant d'enfants. À nourrir, Mrs. Sorley, qui ne connaissait que la dureté du noyau et non la douceur. Elle réserva la terrine de cerises. Lentement, elle fit fondre le beurre, transparent et lisse, pâle et huileux, clarifié et doré, et le mélangea au sucre dans une grande jatte. Aurait-elle dû choisir un dessert anglais traditionnel ? Un amas de gâteaux surgit spontanément devant ses yeux. Naturellement, la recette était française. Elle lui venait de sa grand-mère. Ce qui se passait pour la cuisine en Angleterre était une abomination. Cela consistait à rôtir la viande jusqu'à ce qu'elle soit dure comme de la semelle. Elle ajouta un œuf et s'arrêta un instant. Ne serait-ce pas merveilleux que Nicolas devienne un grand artiste ? Toute la vie se profilant devant lui, une toile vierge, les formes aux couleurs vives se précisant peu à peu. Il y aurait des femmes, des triomphes. Puis les couleurs s'assombriraient avec leur loi de labeur, de solitude, d'épreuve. Comme elle aimerait qu'il puisse rester comme il était à présent. Ils étaient si heureux. Le ciel était si clair. Elle ajouta un œuf, avec une grande sérénité. Car après tout, coulait dans ses veines le sang de cette lignée française très noble dont les filles avaient apporté leur talent et leur énergie, leur sens des couleurs et des formes, leur grâce et leur esprit, aux Anglais apathiques. Elle ajouta encore un œuf dont la sphère jaune tombant dans la jatte bombée se rompit, s'épanchant dans la préparation comme une coulée de lave, comme le soleil s'abîmant dans un océan de beurre. Les deux dômes de sa coquille brisée gisaient sur la table et toute la misère et les souffrances de Mrs. Sorley se résumaient à cela. Pensa-t-elle. Petit à petit, elle versa le lait, jusqu'à ce que la préparation soit lisse et fluide, onctueuse et homogène, liquide et sans grumeaux. S'arrêtant un instant pour songer à ses notes sur l'inégalité du système laitier anglais. Elle leva les yeux. Quel démon le possédait, son Benjamin qui courait sur la pelouse. Pourquoi fallait-il que les enfants changent? Pourquoi fallait-il qu'ils grandissent? À présent, le dôme était devenu un cercle, les cerises enveloppées de la préparation mousseuse qui les bercerait, les protégerait. La préparation mousseuse qui les enveloppait tous, la maison, la pelouse, les asphodèles, ce diable de Nicolas qui passait en courant devant la fenêtre. Et elle glissa la terrine dans le four chaud. Dans 30 minutes, le clafoutis serait prêt.
Passons maintenant aux aventures d'Ivan Labibine Oussouzov, héros tolstoïen méconnu, raconté par les deux comparses Paul Rebout et Charles Muller. Voici Rédemption, un pastiche de l'auteur d'Anna Karénine, avis aux amateurs de la langue russe. Ivan Labibine Oussouzov, du gouvernement de Kartimsk-Krasolvitch-Chegosk, district de Vokovnesensk-Anskrevosansk-Chursk, commune de Ortupinskaya-Skaya-Tienzvla-Popol, village de Tartine. Quand il eut hérité la fortune de sa mère, Ilia Vassilievna Potengletska, et le majorat de son père, le général Dimitri Ivanovitch Bouffnarin, avait longtemps mené une dégradante vie de débauche, car il passait la plus grande majorité de ses jours et de ses nuits le long dresse aux lèvres, à vider coup sur coup des verres successifs d'eau de vie et de champagne, à verser la chartreuse dans les pianos, à fréquenter les mauvais lieux ornés de miroirs et à activer la chute dans le péché des malheureuses condamnées à la violation continue des lois divines et humaines par la corruption du pouvoir légal mis au service de l'égoïsme luxurieux des buveurs et des fumeurs. Mais dans la nuit de Noël 1885, le 7 janvier 1886, un événement lui donna à réfléchir sur la conduite éventuelle de sa vie. Son camarade de dissipation, Nicolas Novodvorovski-Moulagov, après avoir beaucoup bu, beaucoup chanté, beaucoup fumé, trouva plaisant de se faire enfermer dans la glacière d'un restaurant de nuit fashionable. Il y fut retrouvé mort le lendemain dans la glace et dans le péché. Honte de dégoût. Dégoût et honte. À partir de ce jour, Ivan Labibine changea de krakno, habitude, instantanément. Il distribua aux pauvres tout ce qui faisait le luxe et le confort de son logis. Le calorifère, la salle de bain, le tub, les water closets, l'ascenseur. Il se chaussa de galoches de bois, car il était devenu végétarien. Enfin, il alla faire un michiou, trou, dans un des massifs de la perspective Nevski, et y enterra ses gants, sa montre et son lorgnon, car ils sont des objets de luxe contraires à la vie normale. Soudain, il fut accosté par une prostituée. « Dis-moi quoi, joli bronskoy, blond. Viens chez moi, il y a du vodnia, feu. » Ivan Labibine Oussouzov prit les mains de cette malheureuse et les embrassa. Mais elle se recula avec frayeur. L'existence de perdition qu'elle menait lui avait fait oublier la notion du bien et du mal. « Arrière, vieux diable, gueule de cochon, que la peste étouffe, que 1000 chiens mangent tes sales tripes molles » fit-elle en le regardant de travers. « Ne te fâche pas, » reprit Ivan Labibine, « ma petite colombe tout en miel. » « Je veux t'enlever au malheur. Donne-moi plutôt 3 kopecks, monnaie russe, pour acheter du kvass, boisson fermentée, usitée des gens du peuple. Je te donnerai gratuitement des meurbach, bon conseil, » poursuivit affectueusement Ivan Labibine. À ces mots, les yeux bordés de rouge de la prostituée s'humectèrent de larmes. Ils restèrent ainsi à causer ensemble. Enfin, la prostituée dit « Je te suis, petit père. » Ivan Labibine conduisit chez lui cette créature de Dieu. À partir de ce jour, il s'en alla chaque matin pour marcher sur la perspective Nevski. Chaque matin, il rencontrait une prostituée. Il l'abordait. Il s'efforçait de développer ses doctrines. Et chaque matin, il la ramenait chez lui. Au bout de 3 mois, il y avait 90 réfugiés dans l'izba d'Ivan Labibine au Souzov. Elle conduisait là, simplement et franchement, une existence conforme à la vie et à la vérité, telles qu'elles étaient avant que les sophismes modernes et les monstruosités du tsarisme aient eu empoisonné les âmes et les cœurs. Du matin au soir, Ivan Labibine leur montrait son pétarouk. Exemple. Irrésistible. Comme il avait été gagné à la doctrine des Doukhoborsk, il ne tarda pas à les convaincre que les vêtements sont des inventions immorales et hypocrites qui favorisent le péché des sens et l'usage de l'alcool et du tabac. Aussi, tout ce monde, sous la croix vivifiante du Christ, passait-il leur temps complètement nu. Toutes ces femmes ressuscitées de l'erreur rivalisaient de zèle et leur présence sanctifiait l'isba dans laquelle régnait une perpétuelle odeur de ragout vno, sainteté.
Vous avez pas lu Kafka? Oh là 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 là. Vous avez pas lu Kafka? Oh là 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 là. Vous avez pas lu Kafka? Oh là 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 là. Je me donne un mal de chien, mais je ne comprends pas tout. Je me donne un mal de chien, je n'en viens pas à bout. À cause des musiciens, yeah, yeah, qui jouent près de moi. Car si je reste ici, je ne me cultiverai pas. Je ne peux pas lire ici, car c'est très calé Kafka.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Les messages critiques d'auditeurs mécontents. Message reçu le 23 janvier 2010. Pardonnez-moi, mais existe-t-il une émission plus chiante que la vôtre? Et que je me la donne, que j'en rajoute. Une émission pour les bobos en mal de littérature. Dites-le clairement, inécoutable.
Message reçu le 4 mai 2010. Franchement, c'est nul et chiant. La hantise quand l'heure arrive.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Évoquons à présent 3 auteurs bien vivants qui ne sont malheureusement pas avec nous ce soir. C'est pas très fair play, mais c'est méchamment drôle. Voici 3 pastiches de Pascal Fioretto, extrait de l'ouvrage « Et si c'était niais ». Commençons par un texte intitulé « Pourquoi moi ?» écrit par une certaine Christine Anxio. J'ai beaucoup écrit. Lettre E. Écrire comme on s'écrit. Crier comme on crie. Et vouloir. Avant, c'était type, tape, machine à ruban, cling, fin de ligne, touche enfoncée, dans le trou, au fond, bien enfoncée, la touche. Et alors, le ruban rouge qui montait, j'écrivais, écrit, veine, imprimante crevée, cartouche pétée, papier bourré, crise de nerfs, je pleure. J'ai essayé de réparer l'imprimante, tout démonté, de vis en tas, minuscule, 3 ressorts. J'ai passé du liquide à vide sur le capot, traces de doigts, débranché, rebranché, le silence, processus de naufrage intérieur. Trop facile ? J'ai appelé la hotline. Bonjour, c'est Suzanne, puis-je vous aider ? Elle dit. C'est Christine Anxio, je suis très angoissée. J'ai démonté mon imprimante, venez vite. Je ne peux pas, je suis au Maroc dans un call center, madame. Dites-moi quelque chose qui me calme. Essayez de relancer l'ordinateur, madame. Je me balance d'avant en arrière en chantant, je chante en pleurant. Après, je dis à la fille du Maroc, vous êtes toujours là, mademoiselle? Oui, madame. Qu'est-ce qu'on fait pour l'imprimante? C'est difficile par téléphone. Je suis trop vieille pour comprendre, espèce de conne. Non, madame, j'ai pas dit ça, madame. Apportez-la à votre vendeur, il pourra peut-être la remonter. Écoute, j'ai dit à la fille, je sais que tu t'appelles pas Suzanne. Tout ça, c'est mascara des compagnies. Est-ce que je peux vous aider? Elle répète. Arrête immédiatement ou je mets ton nom et celui de ton employeur dans le bouquin. Je m'en fous de payer. C'est lui, l'autre, le E de l'éditeur qui va les régler les dommages. Tu comprends ça? La fille, elle pleurait. Et moi aussi. Continuons avec un autre best-seller. Voici un extrait de « Et si c'était niais » de Marc Lévis. La jolie hôtesse du vol AF-009 s'approcha d'Adam Seberg et lui dit en souriant « Nous allons bientôt atterrir, monsieur. »« Dommage, » répondit-il avec humour. Je commençai à m'assoupir. « On peut rêver sa vie dans les airs ou choisir de la vivre sur la terre ferme, » fit remarquer doucement la jeune fille. Adam leva son regard sur elle. Elle avait de grands yeux violets d'une douceur irréelle. « Vous avez raison, » dit-il en soupirant. Quand le passé nous tourne le dos, il est parfois difficile de le regarder en face. Il est temps de boucler votre ceinture, monsieur, lui dit délicatement l'hôtesse. Ah, si tout était aussi simple à boucler qu'une ceinture, murmura-t-il pour lui seul, tandis que l'Airbus A340 quadri-réacteur d'une longueur de 208 pieds et 18 pouces amorçait un virage au-dessus de la baie de San Francisco. Le soleil couchant empourprait de feu les eaux profondes du Pacifique, allumant des lueurs d'incendie sur les buildings de verre et d'acier du Financial District. L'avion d'Adam s'était immobilisé à son point de stationnement. Adam connaissait bien le San Francisco International Airport. Combien de fois déjà avait-il débarqué ici, du temps où elle et lui étaient encore? La voix mélodieuse de la jolie hôtesse le tira de sa rêverie. « Au revoir, monsieur. Bon séjour en Californie. »« Au revoir, mademoiselle. Voler avec vous, ce n'est pas du vol. » Trouva-t-il la force de plaisanter, malgré l'émotion qui lui serrait la gorge. La jeune fille éclata d'un rire cristallin, découvrant de petites dents de nacre parfaitement alignées de part et d'autre, d'un palais vermeil. Puis son regard, profond comme un lac de montagne, retrouva sa gravité enfantine et elle ajouta dans un souffle « Surtout n'oubliez pas, les fantômes n'ont parfois que les yeux des humains pour les voir. » Que voulez-vous dire par... Mais il était déjà trop tard pour achever sa question. L'hôtesse venait de se précipiter en souriant pour aider une vieille dame aux cheveux neige à remplir son formulaire d'entrée aux USA. Voici le pastiche d'un grand académicien, c'est rudement Bat de Jean Dormismont de la Française Académie. J'étais abîmé dans une profonde méditation sur le temps qui passe l'après-midi devant Derrick quand on sonna à ma porte. Monsieur Dormismont, deux êtres d'apparence aussi humaine que vous et moi, si nous nous vêtions sans goût, se tenaient debout sur le palier de mon appartement. Ah, c'est vous. Enfin. Je vous imaginais, comment dire, plus giottesque, moins des bras, disons, moins moderne, ou peut-être, mais peu importe après tout. Entrez donc, je vous ai attendu si longtemps. Nous ne sommes pas en retard au moins. Disons que vous avez une éternité de retard, ou d'avance en quelque sorte, c'est comme il vous plaira. C'est-à-dire, nous avions dit 15 heures précises à votre secrétariat, or à ma montre il est justement... Oh alors, c'est entendu. Convenant que vous êtes à la bonne heure. C'est mieux pour tout le monde, n'est-ce pas? De toute façon, nous savons tous que vous arrivez toujours trop tôt. Sans vous, il y aurait encore tellement de jolies choses à faire, de livres à écrire, d'accortes jeunes femmes à raccompagner en décapotable. Mais ainsi soit-il, puisqu'il est temps, je laisse les gondoles à Venise, le printemps sur la Tamise, je laisse au loin les pyramides et le soleil de Floride. Non, mais c'est-à-dire que nous sommes là pour... Je sais pourquoi vous êtes là, messieurs, et ne comptez pas sur moi pour tenter pathétiquement de vous résister. Non, je crois que vous vous méprenez. En fait, je suis le commissaire Stiberg, brigade criminelle du 6e arrondissement. Et voici mon adjoint, le lieutenant... Qu'est-ce que vous dites? Vous n'êtes pas un archange du Seigneur, comme dans le songe de Constantin de Piero della Francesca, que j'ai si souvent admiré à l'église San Francesco d'Arezzo? Ah non, pas du tout. Non, non, nous sommes vraiment... Alléluia, au fond, j'aime mieux ça. Il y a tellement de trucs épatants que je n'ai pas encore eu le temps de faire. Apprendre à me servir du Minitel. Raconter l'histoire de Basile VII, le pape Cujat. Revoir Alexandrie. Ah, les sirènes du port d'Alexandrie. Chante encore la même mélodie. Wow, 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 wow. La lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de ma jeunesse. Ah, voile sur les filles et barque sur le Nil. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Non, écoutez, si nous avons souhaité vous rencontrer, c'est pour vous interroger sur... Mais allez-y, interrogez-moi. Figurez-vous que je cherchais justement un candide en vue d'un prochain ouvrage. Le lieutenant et moi, voilà, nous travaillons sur la disparition de 7 de vos confrères écrivains. Tiens, tiens, il disait donc vrai. Que voulez-vous dire, monsieur Dormismont? Que s'est-il passé exactement? Je comprends, vous êtes un peu pressé, commissaire. Vous voudriez que je parle, que je vous étourdisse de mots. Et pourtant, là-bas, au Connemara, on sait tout le prix du silence. Là-bas, au Connemara. Non, écoutez, cette fois, vous devez nous dire ce que vous savez. Très bien, commissaire. Je vais tout vous expliquer. Et là, on s'est moqué des autres, mais mon réalisateur, Xavier Pestugia, que je surnomme ma Rolls, m'a justement fait remarquer que ce n'était pas très charitable, et il m'a dit, mais on a de quoi se moquer de toi aussi.
On y va?
Mmh.
Oula, il est fatigué. Danser avec David, c'était comme respirer de bonnes nouvelles. Être tout contre lui, le visage enfoui entre son oreille et son col droit d'officier. Oh la vache, c'est tout le texte comme ça? Ah merde, j'avais pas éteint mon portable. Ah oh, mais... Ah, je veux bien un verre d'eau, excusez-moi les filles. Un impatient derrière ce cajou. Peu après sa rencontre avec la belle et sulfureuse Zelda... Saïr? Peu après sa rencontre, peu après... Oh là 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 là. Pourquoi les gens écrivent-ils avec des parenthèses tout le temps?
Tri, tru, tri, tru, tri, tru, tri, tru.
La vanité tempérée. La vanité, hein? Ah, merde, merde, merde. Aujourd'hui, j'aurais dû enregistrer Oui, oui. Oui, oui, va à la plage. C'est tout ce que j'aurais pu enregistrer.
Oh là là, que salopio. Voilà. Pour conclure cette émission, j'ai le plaisir de rappeler Nathalie Dessay sur scène. Vous nous aviez enchantés il y a 2 ans avec un texte de Cocteau, La Voix Humaine. Connaissez-vous Marguerite Duras?
J'en avais entendu vaguement parler.
C'est du Duras, mais l'humour en plus. Extrait de Mururoa, mon amour, par l'incorrigible Patrick Rambaud. Ils ont fermé la porte du bungalow, ils ne voient pas dehors, ils sont moites, il est jeune, plus qu'elle, beaucoup plus peut-être. Ils se sont rencontrés comme ça, comme tout le monde se rencontre. On ne sait pas comment, personne ne le sait. Il ne faut pas le savoir, il ne faut pas la savoir, cette rencontre. La femme est regardée, elle est regardée par lui qui la regarde. Nous nommerons cet homme l'anonyme, celui qui ne dit pas son nom, celui qui la regarde, elle. Celui qui s'est approché d'abord, sans doute, à moins que ce ne soit elle. Ils ne le disent pas parce qu'ils ne le savent pas non plus, eux. Il est dans le bungalow maintenant, ce couple de fortune. Lui en short marron, sur le lit. Elle a parlé, debout sur le lit, en regardant le mur. Lui a répondu. Il a dit... Tu n'as rien vu à Mururoa. Elle dit...
J'ai tout vu. Tout.
Il dit « Non, tu n'as rien vu. » Elle éteint la lumière, elle crie.
« Ainsi, le lagon, je l'ai vu, j'en suis sûre. Le lagon existe à Mururoa. J'ai vu pleurer des grenouilles qui avaient des oreilles. J'ai eu peur. Des noix de coco qui éclataient sur le sable nu repoussaient aussitôt. Les hommes aussi, je les ai vus. Ils n'avaient plus de nez et pas de front. »
À Mururoa, les hommes ont deux nez.
Non. Je l'ai vu, je le sais.
Tu ne sais pas. Les hommes ont tous deux nez.
Comment pourrais-je un jour te croire ?
Elle regarde le plafond dans le noir. Elle dit...
Je n'ai rien inventé.
Tu as tout inventé.
Rien.
Elle ne sait pas où elle est. Elle ne sait pas qui elle est. Elle est sûrement dans ses bras à lui qui l'écrase. Maintenant, elle est démunie. Elle aime son short à lui. Elle aime sa peau dure qui la râpe un peu. Les crevasses de sa peau, les bosses. Il la caresse avec ses six doigts palmés de la main droite. Elle dit encore...
Tu m'aimes, tu m'écrases.
Oui, c'est comme ça, écrasé.
Tu m'écrases, tu m'aimes, tu es lourd.
Tu es petite et je t'écrase.
Tu m'aimes à m'étouffer.
Je t'étouffe.
Tu es gros, tu es lourd. J'ai déjà été étouffée quand j'étais jeune.
Tu n'as rien vu à Mururoa. Elle n'est pas sourde, mais il répète. Elle ne veut plus. Elle ferme les yeux. Elle dit...
On dit que toi, tu es tahitien. Tu es complètement tahitien. Ou tu n'es pas complètement tahitien.
Complètement, je suis tahitien.
Tu es un homme.
Oui, un homme lourd de Tahiti.
Tu es brutal. Tu me broies.
Tout est broyé à Mururoa. Absolument tout.
Il n'y a plus rien à Mururoa ?
Il n'y a que les poissons dans le lagon. Demain, j'irai chercher un poisson.
Là-bas ? Tu iras pêcher là-bas ?
Oui, à Mururoa, j'irai pêcher. Il y a des poissons comme tu n'as jamais vu. Jamais.
J'ai vu des poissons déjà.
Non, jamais tu n'as vu de poissons comme les poissons de Mururoa.
Si, j'en suis sûre. J'en ai vu chez les poissonniers avant. Avant, des poissons j'en ai vu dans le Calvados.
Ce n'étaient pas les poissons de Mururoa.
Non, c'était les poissons du Calvados.
Ils se taisent. Après, il répète. Il hache ce qu'il dit comme si c'était pour l'apprendre. Comme pour que ça colle dans sa mémoire à lui. Il dit « Calvados ».
Oui, c'est ça.
Mais où ça ?
Où ?
Où ça, dans le Calvados ?
À Bourville. Bourville.
Bourville ?
Tu ne connais pas. Tu n'as rien vu, toi, dans le Calvados. Rien.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission, réalisée par Xavier Pestugia avec Jean-Michel Bernot à la technique, a été préparée par Estelle Gapp, Léla Kourousselikoua, Perrine Malinge et Claire Tessert. Bon réveillon et bonne année.